Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, hein, l'AI Act de l'Union européenne. Il est entré en vigueur en août 2024, mais pour beaucoup, ça reste un concept un peu lointain.
Oui, un peu abstrait.
Et pourtant, c'est une véritable course contre la montre qui a commencé. Notre mission, c'est de fournir une sorte de boussole pour naviguer dans ce labyrinthe, en se concentrant sur une date clé, une ligne d'arrivée que beaucoup risquent de rater, le 2 août 2026.
C'est la date qui devrait faire sonner toutes les alarmes. On a tendance à voir l'AI Act comme un seul bloc, mais en réalité, c'est un déploiement en plusieurs vagues.
D'accord.
Certaines sont déjà passées, mais celle du 2 août 2026, c'est le tsunami. C'est le moment où les obligations les plus lourdes pour les systèmes d'IA à haut risque deviennent la loi.
C'est là que la théorie va percuter la réalité, en somme.
De plein fouet, exactement.
D'accord, alors déballons ça. Pour bien comprendre pourquoi 2026 est si critique, il faut peut-être remonter un peu le fil. Quelles ont été les premières étapes avant ce grand tremblement de terre ?
Alors, la toute première secousse, c'était en février 2025. L'UE a commencé par le plus simple, interdire ce qui était jugé inacceptable.
C'est-à-dire ?
On a mis hors la loi des systèmes qui relèvent presque de la science-fiction dystopique. La notation sociale par les gouvernements, la manipulation comportementale.
Les techniques subliminales, ce genre de choses.
Oui, ou l'exploitation ciblée des faiblesses des personnes. C'était la première barrière, la plus évidente.
C'était un peu le ménage par le vide, en quelque sorte. Mais ensuite, on s'est attaqué aux fondations de l'IA moderne, les grands modèles comme ChatGPT. Ils ont eu un traitement spécial.
En août 2025. Mais attention, on ne leur a pas encore imposé les règles les plus dures.
D'accord.
À ce stade, c'était surtout une question de transparence. Le message était « ouvrez le capot ». Les fournisseurs ont dû commencer à publier de la documentation technique, à être clairs sur les données d'entraînement.
Une sorte de « montrez-nous ce qu'il y a dans le moteur » avant de commencer à imposer des limitations de vitesse.
C'est une excellente analogie. C'est tout à fait ça. Il fallait d'abord comprendre la mécanique avant de réglementer la conduite. Et ça nous amène à notre fameuse date du 2 août 2026.
C'est là que le diable se cache dans les détails. On entend partout ce terme de système à haut risque, mais les sources sont claires. Il y a haut risque et haut risque.
Absolument.
On a une seule étiquette, mais deux réalités. Et surtout, deux dates complètement différentes.
C'est la distinction la plus importante de tout le texte. L'AI Act a créé deux catégories qui correspondent à deux annexes et donc à deux calendriers.
Commençons par la première.
La première, l'annexe I, concerne les IA qui sont un composant de sécurité dans un produit déjà très réglementé. C'est le cas le plus simple, enfin, si on peut dire.
On parle de quoi, concrètement ?
Une IA qui gère le freinage d'urgence dans une voiture ou le logiciel d'un robot chirurgical ?
Précisément. Les voitures, les jouets, les ascenseurs, les machines industrielles, les dispositifs médicaux.
D'accord.
La logique de l'UE, c'est de dire que ces secteurs ont déjà une culture de la conformité, des processus de certification. On leur donne donc un an de plus jusqu'en août 2027. Ils partent pas de zéro. Donc ça veut dire que les entreprises qui fabriquent des produits IA ont une culture de la conformité complètement différente de celles qui fournissent des services IA. C'est presque deux mondes.
Vous mettez le doigt dessus. Et c'est pour ça que la deuxième catégorie, celle de l'annexe 3, est celle qui doit nous alerter pour l'échéance 2026.
Ah, voilà.
Ici, on ne regarde plus le produit, on regarde l'usage. L'annexe 3 liste une série de cas d'utilisation où l'IA est jugée risquée pour les droits des personnes. Et là, le délai est plus court, c'est demain.
Et les exemples sont très parlants. Dans le monde du travail, on parle des IA qui trient les CV, qui décident qui obtient un entretien.
Qui évalue la performance des employés. Dans l'éducation, celle qui note les examens. On est au cœur de la société.
Tout à fait.
On y trouve aussi des systèmes qui déterminent l'accès à des services essentiels. L'évaluation de la solvabilité pour un prêt. La priorisation des appels d'urgence. Et bien sûr, tous les usages par les forces de l'ordre.
D'accord. Pour tous ces cas, c'est bien le 2 août 2026.
Mais attendez. Les sources mentionnent une sorte de porte de sortie. L'article 6, paragraphe 3.
Si mon système de tri de CV est dans l'annexe 3, est-il automatiquement à haut risque ? Il n'y a pas de marge de manœuvre.
C'est un point technique mais fondamental. Il existe bien une exception. Un système peut échapper à la classification s'il remplit des conditions très strictes.
Comme quoi ?
S'il ne sert qu'à une tâche procédurale très limitée, s'il est purement préparatoire à une décision humaine ou s'il se contente d'améliorer une activité sans la remplacer.
Ça me semble incroyablement flou, améliorer une activité humaine, n'est-ce pas une porte de sortie immense que les entreprises vont s'empresser d'utiliser ?
C'est le risque, et c'est là que la vigilance sera de mise. Cependant, le législateur a posé une ligne rouge.
Laquelle ?
Cette exception ne s'applique jamais, sous aucun prétexte, si le système fait du profilage de personnes. Dès que l'IA analyse, catégorise ou prédit le comportement d'un individu, la porte se referme.
Donc une IA de recrutement qui analyse la personnalité d'un candidat ?
Elle est à haut risque, point final.
Ce qui nous amène à un autre élément qui vient brouiller les pistes, cette rumeur persistante d'un report. La Commission européenne a mis sur la table une proposition qui pourrait tout décaler.
C'est l'élément qui crée beaucoup d'incertitudes en ce moment. La proposition est simple. Reporter d'un an les obligations.
D'accord.
L'échéance pour l'annexe 3 passerait donc d'août 2026 à décembre 2027.
Et la raison officielle, c'est quoi ? Un cadeau aux entreprises ?
Pas vraiment. C'est plutôt un constat d'échec pragmatique de la part de l'administration elle-même. La Commission reconnaît que les outils de conformité ne sont pas prêts.
C'est-à-dire ?
Les normes techniques harmonisées, qui doivent traduire la loi en specs concrètes pour les ingénieurs, ben, elles ne sont pas finalisées. Les lignes directrices non plus. En gros, ils disent « on vous a donné les règles du jeu, mais on n'a pas encore fini de peindre les lignes sur le terrain ».
Alors, la question que tout le monde se pose, on fait quoi ? Est-ce qu'on lève le pied sur la préparation en pariant sur ce report ?
Et la seule réponse raisonnable est « absolument pas ». Parier sur ce report, c'est jouer à la roulette russe juridique.
Pourquoi ?
Parce qu'à l'heure où on parle, ce n'est qu'une proposition. Elle doit encore être validée par le Parlement et le Conseil. Le processus peut prendre des mois, le résultat est incertain. Le seul conseil valable, c'est de continuer à se préparer pour 2026.
Comme si ce report n'existait pas.
Exactement. Viser la date la plus proche, c'est la seule façon de maîtriser les risques.
Tout ça reste un peu abstrait. J'essaye de visualiser un cas concret. Par exemple, un de ces robots humanoïdes qu'on voit partout. Comment est-ce qu'on classifie un objet comme ça, qui peut tout faire ?
C'est un cas d'étude parfait. Ça oblige à utiliser toute la grille de lecture du règlement. La classification d'un robot humanoïde ne dépend pas de ce qu'il est, mais de ce qu'il fait.
D'accord.
On peut l'analyser avec trois questions successives.
Allons-y. Première question.
Il devient une machine au sens du règlement machine.
Ah oui ?
S'il assiste un chirurgien, il devient un dispositif médical. Dans ces deux cas, il tombe directement dans l'annexe I.
Donc, haut risque et échéance août 2027.
Voilà.
Logique. Mais s'il n'est ni une machine, ni un dispositif médical...
On passe à la deuxième question. Pour quel cas d'usage est-il utilisé ? Et là, on sort notre liste de l'annexe 3.
D'accord.
Imaginons qu'on vende ce même robot pour faire passer des entretiens de recrutement. Il tombe dans l'annexe 3, catégorie emploi. Si une école l'utilise pour surveiller des examens, catégorie éducation.
Et donc, dans ces cas-là, il est toujours à haut risque ?
Oui. Mais via l'annexe 3. Et là, l'échéance se rapproche dangereusement. Août 2026.
C'est fascinant. Le même hardware, le même software, mais en changeant l'application, on change la date limite.
C'est ça.
Et s'il ne fait rien de tout ça, s'il est juste un guide dans un musée ?
On arrive à la troisième question, qui est une sorte de filet de sécurité. Même s'il n'est dans aucune annexe, peut-on le considérer comme à haut risque à cause de ses caractéristiques intrinsèques ?
C'est-à-dire ?
On va regarder son degré d'autonomie, sa capacité à interagir physiquement avec des humains. S'il pose un risque significatif, il peut quand même être qualifié de haut risque.
Et pour des usages plus simples, comme un robot d'accueil qui dit bonjour ?
Là, on descend dans la pyramide des risques. Il serait probablement classé à risque limité. La seule obligation serait la transparence. Dire clairement, vous interagissez avec une IA.
D'accord.
Et pour des tâches vraiment basiques, il peut même être à risque minimal. Et là, il échappe à toute obligation.
Très clair. Donc, pour une organisation qui nous écoute et qui réalise soudain qu'un de ces systèmes est peut-être un haut risque de l'annexe 3, que faut-il faire concrètement avant août 2026 ? On panique ?
On ne panique pas, mais on agit. Et vite. Il y a un plan d'action très direct en cette étape. La toute première est la plus évidente, mais souvent la plus négligée. Cartographier.
Faire l'inventaire.
Exactement. De tous les systèmes d'IA utilisés, développés en interne, achetés, intégrés via une API, tout.
Une fois qu'on a cette carte, j'imagine qu'il faut évaluer chaque système.
C'est l'étape 2. Pour chaque système, on passe au crible des annexes. Annexe 3, est-ce que l'exception de l'article 6.3 pourrait s'appliquer ? C'est un travail d'analyse fine.
D'accord, donc on identifie les points chauds.
Voilà. Ce qui nous amène à l'étape 3, prioriser. On ne peut pas tout faire en même temps. Les efforts doivent se concentrer sur l'annexe 3. L'horloge tourne plus vite pour eux.
Logique. Et après, j'imagine qu'il faut mettre de l'ordre en interne.
C'est l'étape 4, la gouvernance. Il faut désigner un pilote, un responsable de la conformité, mettre en place des processus, des audits et surtout former les équipes.
Et ensuite, on entre dans le dur, la paperasse.
C'est l'étape 5, la documentation. Et c'est un morceau énorme. La loi exige une doc technique très détaillée, des notices d'utilisation claires, des systèmes de log robustes pour pouvoir tracer les décisions de l'IA.
Il faut pouvoir tout prouver, en fait.
Tout. La preuve, c'est la documentation.
Il reste deux étapes. J'imagine qu'elles concernent l'avenir.
Oui. L'étape 6, c'est anticiper. Le processus d'évaluation de conformité lui-même prend du temps, parfois des mois. Il faut lancer ça bien avant la date limite.
D'accord.
Et enfin, l'étape 7, c'est surveiller. Rester en veille permanente, suivre la publication des normes, les guides de la commission et bien sûr garder un œil sur ce possible report.
Et pour être sûr que tout le monde a bien compris l'urgence, rappelons ce qui se passe si on arrive en août 2026 et que rien n'est fait. Les amendes, c'est du sérieux, hein.
On peut dire ça. Si on ne respecte pas les règles, ça fait mal. Vraiment mal. Pour les infractions les plus graves, on parle d'amendes allant jusqu'à 35 millions d'euros. Ou 7% du chiffre d'affaires mondial annuel.
Le plus élevé des deux, j'imagine.
Le plus élevé des deux, oui. Pour être sûr que le message passe. L'inaction n'est tout simplement pas une option.
En résumé, le 2 août 2026 est la ligne d'arrivée. Pour l'instant, elle est non négociable. La priorité absolue est de bien distinguer les systèmes basés sur le produit, donc l'annexe I, et ceux basés sur l'usage, l'annexe 3.
C'est la clé de voûte de toute la stratégie.
Et l'exemple du robot nous a bien montré que c'est une analyse au cas par cas.
Absolument. Et pour finir, on pourrait se dire que tout ça n'est qu'une énorme contrainte, mais ça pose une question stratégique bien plus profonde.
C'est-à-dire ?
Au-delà de cocher des cases pour éviter une amende, le véritable enjeu n'est-il pas de transformer cette obligation en avantage ? L'Europe est en train de créer le premier marché mondial pour une IA de confiance.
Je vois où vous voulez en venir.
Être parmi les premiers à maîtriser ces règles, à pouvoir garantir des systèmes robustes, transparents, éthiques, ce n'est pas juste de la conformité, c'est peut-être en train de devenir une marque de fabrique, un argument commercial très puissant sur la scène mondiale.